carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Gauthier Jurgensen.
Bienvenue dans la chronique cinéma de Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler de Darius Kondji, qui est correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et qui est chef opérateur pour de nombreux grands cinéastes du moment. Il a signé la photographie du film Amour de Michael Haneke, qui est à la Palme d'Or, qui sort le 23 octobre. Et c'est Philippe Rouillet, donc un collègue critique, qui va venir nous en parler. Puisque Philippe Rouillet, qui travaille chez Positif et à Psychologie Magazine et au Cercle sur Canal+, vient de sortir le 17 octobre, Haneke par Haneke, entretien avec Michel Ciotta et donc Philippe Rouillet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots, juste un peu une petite piqûre de rappel, qu'est-ce que le métier de chef opérateur ou de directeur de la photographie, puisqu'il s'agit en gros du même poste?
Oui, c'est exactement le même poste, les deux termes sont synonymes, mais donc le chef opérateur, il s'occupe non pas de cadrer, comme on croit souvent, mais de la lumière. Il s'occupe de la lumière, vous savez bien qu'au cinéma, si vous voulez avoir, même si vous voulez avoir un effet réaliste, il faut éclairer. Si vous, simplement, chacun peut faire l'exemple chez soi d'allumer sa caméra et on verra qu'on n'a pas le rendu. Alors évidemment, en travaillant avec des grands cinéastes, on veut une lumière particulière qui n'est pas forcément réaliste. Donc, il faut quelqu'un qui a un grand savoir en termes de lumière. Maintenant, pour nuancer ce que je disais tout à l'heure, très souvent, les chefs opérateurs travaillent en étroite collaboration avec leurs cadreurs. Certains font aussi le cadre, ce n'est pas le cas de Darius Kondji, mais il a avec lui une équipe que très généralement, il fait engager en même temps que lui, ce qui donne une très grande complicité entre le cadre, la lumière, et évidemment, complicité nécessaire avec le cinéaste, parce que c'est le film du cinéaste. Donc le chef opérateur, le directeur de la photo, il est quand même là, même si, évidemment, force de proposition, il a des idées, mais il doit aller dans le même sens que le metteur en scène. Il ne va pas se faire une très belle photo parce que lui, il trouve que c'est beau, si le metteur en scène veut quelque chose de plus réaliste, de plus sombre.
Donc en clair, c'est à lui de rendre ce que veut voir le metteur en scène.
Exactement.
Donc Darius Kondji a travaillé, j'ai fait une petite sélection pêle-mêle pour qu'on voit l'ampleur du bonhomme. Il a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, David Fincher, Woody Allen, Roman Polanski, Danny Boyle et maintenant avec Michael Haneke. Pourquoi c'est un chef opérateur si demandé?
Alors je pense qu'il est très demandé parce que, un, il est très talentueux, mais son talent, c'est de réussir à faire des photos différentes, de faire une lumière différente d'un film à l'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas un bagage technique comme d'autres. Il n'a pas fait une école comme Louis Lumière. Il a fait une école de cinéma, qui est la New York University, bon, il y a pire, mais qui n'est pas une école pratique. Il a beaucoup étudié, il a appris à faire la lumière en regardant les films des autres. Il dit « moi, j'ai appris la lumière en regardant Citizen Kane » et la fabuleuse lumière de Greg Toland. Et donc, à partir de là, c'est quelqu'un qui apprend en travaillant et qui estime qu'il n'a jamais fait le tour de son métier. Et pour un cinéaste, c'est hyper excitant, parce que ça veut dire que vous avez quelqu'un avec vous qui ne vous fera jamais un travail routinier, qui sera toujours prêt à aller dans les aventures les plus folles. Ce que dit Darius Kondji, c'est « moi, ce que j'adore, c'est quand un metteur en scène me demande quelque chose qui n'est pas possible. Parce que si ce n'est pas possible, eh ben, on va trouver. » Et c'est exactement ce que disait Greg Toland à propos d'Orson Welles. Orson Welles, c'était un débutant. Il m'a demandé des choses, il ne savait même pas ce qu'il me demandait, il ne savait pas que ce qu'il me demandait était impossible à l'époque. Et on a trouvé, on a réussi à le faire. Et Darius Kondji est exactement dans cette logique-là. Alors évidemment, vous comprenez que c'est très tentant pour un cinéaste de vouloir l'engager.
Quelle est la particularité du travail que Darius Kondji a effectué sur Amour de Michael Haneke? Qu'est-ce que Haneke lui a demandé?
Alors, ce qui était très compliqué sur Amour, c'est qu'il voulait une photo réaliste, très réaliste, dans un environnement qui ne l'était pas. C'est-à-dire que Amour a été tourné en studio, dans la banlieue parisienne. Donc, tout a été entièrement reconstitué, mais vous savez que quand vous tournez en studio, ça veut dire que vous tournez, en gros, dans un espèce de hangar. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de fenêtres. Donc, évidemment, l'appartement du film est un appartement avec des fenêtres. Donc, ça veut dire que tout a été tourné en écran vert. C'est-à-dire que les fenêtres étaient fausses, ne donnaient sur rien. On met un fond vert et après le tournage, on va mettre des incrustations numérique pour avoir l'extérieur. Donc, tout ça est très compliqué. Alors, avec Haneke, ils se sont beaucoup réfléchi en disant comment on va faire pour avoir cette exigence de réalisme dans un univers aussi faux, aussi artificiel. Et ils ont opté pour le numérique. Donc, ils ont pris la dernière caméra numérique du moment après avoir fait des tas de tests. Alors, Roman Polanski, dont vous parliez tout à l'heure, à l'époque, faisait les mêmes tests pour Carnage. Finalement, lui, il a opté pour le 35 mm, la pellicule. Eux ont opté pour le numérique, et ils disent tous les deux qu'ils le regrettent. C'est-à-dire qu'évidemment, l'image du film est magnifique, mais ils se sont complètement arrachés les cheveux parce qu'ils ont découvert une très très grosse difficulté. Vous savez, aujourd'hui, quand on tourne, après on va regarder sur le combo, ce qu'on a qu'un petit écran, un petit moniteur vidéo, et le problème, c'est que sur le plateau, l'image vidéo qu'ils avaient était inférieure au rendu. Donc, ils ne pouvaient pas se rendre compte, notamment de la netteté de l'image qu'ils avaient. Et Michael Haneke est un perfectionniste terrible. Donc, quand on lui disait « tout va s'arranger après le tournage en post-production », c'est quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Il veut savoir tout de suite si ça va. Donc, ça a été très compliqué. Et le problème qu'ils avaient donc, sur le tournage, c'était de bien faire attention. Comme ils voulaient quelque chose de réaliste, il fallait que les axes de lumière aient l'air de venir des fenêtres qui étaient fausses. Donc, il fallait vraiment penser la lumière et les raccords lumière en les réinventant. Et d'autre part, ce qu'ils voulaient, c'est capter le relief des peaux. Capter le relief des peaux, mais en même temps, c'était très compliqué parce qu'il ne faut pas enlaidir les comédiens. Et il faut bien voir qu'au fur et à mesure de la dégradation physique du personnage de la femme incarné par Emmanuel Riva, il y a des effets maquillage, il y a différentes prothèses qui, elles, ne doivent pas se voir. C'est-à-dire qu'on doit voir le relief de la peau, mais on ne doit pas voir l'effet spécial parce qu'évidemment, tout tombe par terre. Donc voilà, c'était ça la très, très grande difficulté qu'ils avaient à gérer, et très concrètement, ça a amené quand même beaucoup de temps d'attente sur le plateau. Pour les comédiens, ça a été compliqué, parce que la technique ne suivait pas toujours, il fallait se mettre au point, voilà. Et après, il y a eu un très 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 gros long moment pour étalonner le film, c'est-à-dire pour avoir exactement la couleur et la netteté qu'on veut en post-production. Ça a duré plusieurs mois, hein, alors qu'habituellement, on fait ça en 15 jours. Hein.
Alors, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, ce souci de réalisme dans la photographie de Darius Kondji sur ce film. Puisque, je ne sais pas si je me trompe, mais on connaît Darius Kondji pour des films comme Seven ou Midnight in Paris, pour lesquels il a inventé, créé cette sorte de lumière chaude, un petit peu orangée, qui n'est pas du tout ressortie là, pour ce film-là. Alors pourquoi Michael Haneke, pour faire cette photographie réaliste, a demandé particulièrement à Darius Kondji?
Parce qu'en même temps, Darius Kondji est capable de faire quelque chose de très réaliste. Reparlons de Seven. C'est un très bon exemple, puisque c'est un peu le film, j'allais dire, qui a été longtemps le maître étalon en termes de Darius Kondji. Darius Kondji, vous l'avez dit, il a fait ses premiers films très connus avec Caro et Jeunet. C'était Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Et puis, en même temps, il fait des pubs, il fait des clips. C'est comme ça que Fincher le remarque, hein, plus qu'avec Caro et Jeunet, et l'embarque pour Seven. Qu'est-ce qui se passe avec l'image de Seven? C'est-à-dire que vous avez raison, vous avez une image très enveloppante, avec des noirs extrêmement profonds. Pour ça, il emprunte un procédé qui va peaufiner à son collègue italien Vittorio Storaro. On travaille sur l'argent, pas la monnaie, pas les dollars, l'argent de la pellicule, hein, la pellicule 35 mm qui est argentique. Donc on fait un travail très particulier sur l'argent qu'il y a dans la pellicule pour obtenir des noirs plus profonds et un espèce d'effet de patine. Mais si vous revoyez aujourd'hui Seven, pas dans un DVD, si vous le voyez dans une vraie belle copie 35 ou dans la copie Blu-ray qui est en vente, vous apercevez que derrière ces noirs très profonds, vous avez une image en même temps extraordinairement réaliste. C'est un polar pluvieux et on n'a pas du tout cette lumière chaude, du moins dans les plans d'extérieur ou sur les scènes de crime, qui a été le fait de, effectivement, Midnight in Paris. Et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser avec des ornières, surtout quand on a un artiste du talent de Darius Kondji, parce qu'évidemment c'est un technicien, mais un technicien c'est un artiste, hein, on est d'accord à ce niveau-là d'excellence. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait faire quelque chose d'aussi faux peut faire forcément quelque chose d'aussi vrai. C'est le cas de ce qu'on voit avec Seven.
Et alors, j'ai appris quelque chose qui m'a beaucoup amusé à travers votre livre, en lisant vos entretiens. C'est que donc c'est la deuxième fois que Darius Kondji travaille avec Michael Haneke après Funny Games US, la version refaite sortie en 2008. Il me semble que sur ce deuxième film qu'ils font ensemble, Amour, il y a eu une discorde entre eux sur justement l'emploi soit du numérique, soit de l'analogique, les copies 35. Apparemment, Michael Haneke tenait quand même beaucoup à sa copie 35 et Darius Kondji voulait le pousser vers le numérique.
Oui, mais vous avez entièrement raison. Mais pour une raison simple, c'est que Haneke avait eu une expérience très décevante du numérique sur Caché, qui était le film qu'il a fait avant Funny Games US. Non pas que l'image de Caché ne soit pas belle. Le film ressort dans un nouveau pressage en DVD, vous pourrez vous en rendre compte. Mais ça a été des embêtements à n'en plus finir sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, c'est que la caméra numérique à l'époque, mais c'était en 2005, hein, donc c'était quand même il y a longtemps, en termes de progrès numérique,
de technologie,
c'est le Moyen-Âge. Le problème de la caméra, c'est qu'elle chauffait. Donc, il fallait régulièrement mettre une couverture dessus pour qu'elle arrête de chauffer. Mais la couverture chauffait trop et ça faisait du bruit. Donc, il fallait arrêter. Donc, c'était sans cesse s'il y avait des problèmes. Alors que le film, il faut bien comprendre que le cinéma de Michael Haneke repose beaucoup sur la mise en scène et sur l'intensité du jeu des comédiens. Et c'est vrai que quand vous lancez un acteur comme Daniel Auteuil dans Caché dans un plan séquence de 8 minutes qui lui demande de faire énormément de choses, à la fin de pleurer, c'est-à-dire que vous lui demandez un plan où au début il pleure pas, il va pleurer en cours de plan. C'est vraiment... Alors, quand vous lui dites « c'était super, mais là, la caméra s'est arrêtée, donc on recommence », l'acteur, vous lui faites ça une fois, la deuxième fois, vous risquez de le perdre. Donc, Haneke était fou, et Kondji, qui avait l'impression que vraiment le numérique avait fait des progrès, l'a vraiment supplié sur amour en l'assurant qu'il n'y aurait aucun problème. Et ils ont fait des essais qui étaient moyennement concluants, mais Kondji était toujours sur sa lignée. Et dès que le tournage a commencé, à un moment où les choses sont engagées et qu'on ne peut pas changer, parce que tout est prévu pour un certain éclairage, pour une certaine lumière par rapport au choix du numérique, ils se sont très vite aperçus au bout de 2 jours que ce n'était pas aussi facile et que ça n'allait pas être le morceau de gâteau qu'ils avaient prévu. Et donc, à partir de là, il y a forcément eu un peu de discorde parce qu'évidemment, la lumière n'était jamais prête, la caméra avait des problèmes et notre ami cinéaste bouillait d'impatience dans son coin. Ce qui est très amusant, c'est qu'à la fin du tournage, à la fois Darius Kondji et Haneke disent qu'on ne les reprendra pas et qu'ils n'ont qu'une envie maintenant, c'est de tourner en 35. Ce qu'a fait Kondji entre-temps avec le film de James Gray.
On en est où de cette discorde? Ils l'entendent et restent cordiales ou est-ce qu'ils sont brouillés à jamais?
On ne sait jamais, non, mais bon, je pense qu'il y a eu un petit froid, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire très rapidement un petit cours comme pour les nuls? Quelle est la différence d'enjeu, tout simplement, entre tourner en 35 mm, en véritable pellicule de cinéma, et tourner en numérique? Qu'est-ce qu'on peut reprocher au numérique et quels sont les avantages de cette bonne vieille pellicule de papa, en gros?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que la pellicule, de moins en moins de laboratoires vont en fabriquer. Donc là, ce n'est pas encore le cas maintenant. Mais très vite, il va arriver que ça va être de plus en plus compliqué d'avoir du bon matériel parce que les gens commencent à abandonner et que toutes les recherches se tournent vers le numérique. Il faut savoir, par exemple, que je vais vous donner un autre exemple, mais ça rejoint, c'est que quand vous voulez tourner aujourd'hui en noir et blanc, vous ne pouvez plus tourner avec une pellicule noir et blanc. Techniquement, vous pouvez trouver de la pellicule noir et blanc et des caméras noir et blanc, mais elle remonte à Mathusalem.
Oui,
Que Haneke, encore lui, raconte ça très bien dans le livre. Quand il fait le ruban blanc qu'il a toujours imaginé qu'en noir et blanc, il doit le tourner en couleur pour ensuite faire un report en numérique et enlever la couleur et après refaire le report en 35. Alors, vous comprenez bien comment le problème du 35 mm, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étalonnage, beaucoup de choses se font en numérique. Et on perd de la finesse, c'est-à-dire que, par exemple, un film comme Le Ruban Blanc, qui a été tourné en 35, étalonné en numérique. Après, il a été distribué et exploité, notamment en France, sur 2 supports. Parce qu'en 2009, toutes les salles de France ne sont pas équipées en numérique, en projection numérique. Donc, il a fallu faire des transferts sur Copy 35 et des transferts... pour le récupérer le niveau de précision, d'image, de netteté, de finesse qu'il y avait sur le numérique sur les Copy 35, ça a été un travail énorme. Donc, si vous voulez, l'outil numérique, quand il est maîtrisé, vous permet une finesse incomparable. Il vous permet aussi, vous n'êtes pas limité par un magasin de pellicules que vous mettez dans une caméra. Il faut savoir qu'une pellicule 35 mm, vous en avez 10 minutes, c'est entre 10 et 11 minutes un chargeur. Donc quand vous arrivez au bout de votre chargeur, quoi qu'il arrive, ça arrête de tourner. Et même si à ce moment-là, votre acteur est en train de faire quelque chose de formidable, techniquement, il n'y a plus de jus, quoi. Ça n'imprime plus. Alors qu'en numérique, vous pouvez. Donc ça veut dire, alors c'est pas le cas pour Haneke parce que sa mise en scène n'est pas du tout comme ça, mais des gens qui sont plus dans la recherche, etc., peuvent se permettre de lancer la caméra avant même de dire, c'est-à-dire certains filment les répétitions avec le numérique et après vont utiliser les répétitions dans le montage final. De même, vous n'avez même plus besoin de dire couper, c'est-à-dire que ça continue. Si vous demandez une autre prise, vous l'enchaînez sur le... Donc, les acteurs n'ont pas le temps de se refroidir. Ils sont dans leur élan, on continue comme ça. Il y a comme ça énormément... Et puis alors, pour la lumière, le numérique est plus sensible. Donc, il y a besoin de moins éclairer Aujourd'hui, vous vous souvenez, on parle toujours de Barry Lyndon, de son éclairage aux bougies. Et pour ça, Kubrick avait dû faire appel à des objectifs très spéciaux utilisés par l'armée qu'il avait fait adapter à ses caméras. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Avec une très bonne caméra numérique, vous pouvez tourner une scène en bougie et pour des sommes moindres. Souvenons-nous de Raoul Ruiz, son avant-dernier, son fameux Mystère de Lisbonne. Il l'a tourné en numérique. Ça donne une impression d'une richesse inouïe, alors que c'était un film avec un budget très très modeste.
Et alors, on est un petit peu surpris quand même que Haneke, tout comme Darius Kondji, regrette la pellicule 35 mm, puisqu'ils ont quand même eu la Palme d'Or avec Amour. Est-ce que le film aurait été vraiment mieux tourné en 35 mm ?
Non, le film n'aurait pas été mieux, mais ils ont eu tellement de peur, de suer, etc., qu'ils n'oublient pas à quel point ça a été difficile. Ils pensent aujourd'hui, mais peut-être ils ont tort, et vous savez bien, c'est ou bien, la vie, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé si on avait choisi l'autre. Ils se disent que peut-être ça aurait été plus facile et qu'ils n'auraient pas eu un moins bon résultat en pellicule. Maintenant, c'est à voir. Ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en numérique, on arrive à avoir une telle précision qu'on retrouve quelque chose du grain de l'argentique. Parce que ce qui nous ennuie, nous, cinéphiles, critiques, ce que vous voulez, qu'on passe de l'autre côté, qu'on n'est plus là dans ceux qui font, mais dans ceux qui regardent, c'est nous tous qui regardons les films. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être lisse dans le numérique et qui est gênant, c'est-à-dire qu'on a une image un peu métallisée. Alors ça va si on voit Hit de Michael Mann, mais pour Amour, on n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir quelque chose de plus chaud. Et il me semble que le numérique aujourd'hui permet ça. Donc c'est à long terme, je pense que la gamme du numérique est illimitée, mais aujourd'hui il faut encore faire avec des soucis qui sont presque des soucis d'informatique, puisque finalement le numérique fonctionne comme un ordinateur.
Vous nous parliez un petit peu du James Gray, dont la lumière est signée Darius Kondji, qui va sortir.
Il va sortir dans longtemps, oui.
Oui, oui, ouais. C'est en train de se faire. Est-ce que vous connaissez un petit peu le carnet de balles de Darius Kondji? Qu'est-ce qu'il
après
fait
ça, non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va
vous
faire
savez
après.
Pas si...
Je sais qu'il finalise le Gray, parce que certainement il sera là encore pour l'étalonnage. Hein, généralement, il faut bien comprendre qu'un directeur de la photo, son métier ne s'arrête pas le dernier jour de tournage. Hein. Il va continuer à être là. Et évidemment, ce n'est pas lui qui fait le montage, mais une fois que le montage est fait, il va revenir pour l'étalonnage. Après, je ne sais pas. Donc là, il est avec Gray, je ne sais pas du tout ce qu'il va enchaîner ensuite.
Et Darius Kondji et Michael Haneke donc, retravailleront peut-être ensemble, on ne le sait pas encore.
On leur souhaite, parce que les deux films ont été très bien. Et déjà, Haneke voulait Kondji pour Le Temps du Loup, qui était un film entièrement sombre, et je pense que pour le coup, Le Temps du Loup aurait été un meilleur film si c'était Kondji qui en avait fait la lumière, parce qu'il aurait plus osé aller dans les noirs.
Quel projet pour Haneke ?
Alors, il a un projet, déjà, il y a une réalité très concrète, c'est que vous savez qu'il avait monté en 2006 un opéra à Paris, qui était le Don Giovanni, il l'avait monté à Garnier, il a été repris à Bastille, il a été encore repris l'hiver dernier, et là, il monte un deuxième opéra, toujours d'après Mozart, et cette fois-ci à Madrid, c'est Così van tutte. Donc c'est en février, donc ça prend un temps fou. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que préparer un opéra, c'est encore plus que préparer un film. Parce que la musique, elle est évidemment donnée, il ne s'agit pas de pouvoir la changer. Donc il faut calquer votre mise en scène, parce qu'évidemment avec Haneke, on parle de mise en scène. Ce n'est pas juste qu'il est là, qu'il met son nom et qu'il a imaginé un décor. Avec Haneke, les chanteurs doivent être acteurs. Donc, il a obtenu quelque chose qui est unique, c'est d'avoir 2 semaines de répétition de plus, alors que les acteurs d'opéra, vous savez, qui sont très pris et qui font des répétitions, des représentations partout dans le monde, la norme, c'est 6 semaines de répétition pour un nouveau spectacle, et lui, il en a obtenu 8, ce qui est absolument exact, parce qu'il faut évidemment les payer en conséquence. Et avant d'être à ces 8 semaines de répétition avec eux, parce qu'il va vraiment les diriger, il faut que sa mise en scène soit parfaitement au cordeau. C'est-à-dire qu'il fait un opéra comme il fait un film, c'est-à-dire en ayant tout préparé chez lui, tout storyboardé, et en étant bien sûr ouvert à ce qui peut arriver pour changer. Et après ça, il aimerait se replonger dans un scénario qu'il a commencé à propos d'Internet. Il ne veut pas en dire plus, mais voilà, il aimerait bien idéalement tourner cet été ou à l'automne. Est-ce que ce sera possible ? Le problème, c'est qu'Amour, le succès d'Amour, le contraint quand même, hein, même en limitant au maximum les mondanités, la représentation. Il vient de passer 3 semaines aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce que voilà, le film présenté concourt pour les Oscars. Tout ça se passe très bien, mais vous comprenez bien que ce n'est pas à ce moment-là, en rentrant dans votre chambre d'hôtel, que vous allez écrire votre scénario, quoi. Là, il va encore un peu de promotion à Paris, et puis enfin, il va pouvoir rentrer à Vienne pour se remettre au travail.
Alors, on va laisser Darius Kondji et Michael Haneke de côté un tout petit instant pour parler de vous, puisque vous avez sorti le 17 octobre dernier Haneke par Haneke, entretien avec Michel Ciotta et Philippe Rouillet, c'est aux éditions Stock. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé sur ce livre, comment ça s'est préparé ?
Alors, il faut savoir qu'avec Michel Ciotta, qui est donc un critique qui travaille avec moi à Positif et qui est aussi un ami, il faut le dire, on avait l'habitude de faire les entretiens avec Haneke pour Positif. Positif a toujours beaucoup défendu Haneke. Et donc, au moment de la sortie des films, plusieurs fois, on s'est retrouvés à être notre paire d'intervieweurs. Et on s'est aperçu que, d'une part, on s'entendait très bien avec Haneke, que le courant passait bien. Et on avait l'impression que peut-être dans nos entretiens, il en disait plus. Alors, on s'est dit, mais il n'y a pas de livre en France sur lui. Alors, plutôt que de faire un livre sur Haneke, on va faire un livre avec Haneke. Et donc, on le connaissait, on lui a proposé, on lui a demandé si ça le tentait. Et il a été très séduit par le projet. Et très séduit, c'était compliqué pour lui, parce qu'il faut bien comprendre que ce livre, on l'a fait en français. Donc, Haneke parle français, mais ce n'est pas sa langue maternelle. Donc, ça veut dire que c'est quand même un travail très, très important. Et puis, il a pris l'ampleur de ce qu'on voulait faire. Je pense qu'au départ, il ne pensait pas que ça allait être réglé, parce qu'on peut avoir la vision d'un livre d'entretien où on se voit 3-4 journées et puis c'est bon. Il a découvert qu'en fait, on était un peu des teigneux de l'analyse filmique, qu'on avait été chercher, par exemple, ces films de télévision. Il y en a quand même une bonne dizaine qui sont totalement inédits en France. On s'est débrouillé pour se les procurer et on les a regardés, on les a étudiés. Et en fait, les 4 premières journées ont été consacrées à ces téléfilms-là. Donc, il a compris que ça allait être un projet beaucoup plus long, mais il était ravi. Il a toujours été avec nous. Alors, c'est là qu'on voit la force de travail du bonhomme. Les entretiens faisaient entre 4 et 5 heures, sans pause. C'est quelque chose de très, très intense, hein, parce qu'un entretien, vous allez me dire, les gens travaillent 8 heures au travail. Oui, d'accord, mais 4 ou 5 heures sans pause en entretien, c'est vraiment, ça veut dire qu'on peut passer 2 ou 3 films en revue. En tout, on a fait 50 heures. On a fait 50 heures d'entretien enregistré, mais évidemment, on se voyait plus longtemps parce qu'on poursuivait de manière amicalement, on discutait, on allait dîner ensemble. Et après, je vous épargne le temps qu'on a mis pour retranscrire, parce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut écouter entièrement les bandes, et puis il faut remodeler, il faut un peu remodeler les phrases. Et puis surtout, vous êtes face à une espèce de puzzle immense. Quand vous lisez un livre, vous attendez pas à ce que 10 pages plus loin, on vous revienne à ce que vous aviez commencé à vous dire parce que c'était le fil de la conversation ou parce que les entretiens se sont échelonnés sur presque 2 ans. Et donc, vous imaginez bien que des fois, on revient sur des sujets et tout ça a dû être remis non seulement en forme, mais en place pour qu'on traite d'un sujet et qu'on retrouve, nous, ce qu'on voulait, c'est retrouver l'élan de la conversation, l'élan de l'échange, son côté très amical et joyeux, parce qu'on a en France de Michael Haneke l'image un peu austère d'un pasteur protestant ou que sais-je, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui pense énormément son cinéma, qui pense tout court, mais qui est très jovial. Et le but était de retrouver ce ton dans les entretiens. Alors, il nous a dit beaucoup de choses. Il commence en disant qu'il ne va pas parler de sa vie privée parce que ça n'interfère pas avec le cinéma. Bon, il ne s'agit pas de faire gala et évidemment d'aller chercher les ragots, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui peuvent intercéder. Par exemple, Amour, ce film si particulier sur l'histoire de ce couple, il parle de sa tante, voilà, la tante qui l'a élevé. Il n'a pas été élevé par ses parents, mais il est élevé par une tante et qui lui a demandé un jour de l'aider à se tuer parce qu'elle allait mourir. Il ne l'a pas fait, mais il en a gardé une espèce de culpabilité, en tout cas une interrogation qu'il a voulu. Donc, vous voyez, c'est aussi ça, parler de la vie privée. Il faut savoir que Amour, ce fameux appartement dont on parlait tout à l'heure, c'est la reconstitution exacte de l'appartement de ses parents. Ce n'est pas totalement anodin quand on parle de la sensibilité. Donc, il nous a beaucoup parlé de choses comme ça. Et alors, la question après, quand on se retrouve chez soi, qu'on est en train de retranscrire l'entretien, on se dit, est-ce qu'il n'a pas été trop loin ? Est-ce qu'on a le droit d'écrire ça ? Et en fait, on avait passé un pacte avec lui, et ce qui est formidable avec Haneke, c'est que quand il vous dit quelque chose, la parole, elle est toujours donnée et tenue. Donc, il nous avait dit, j'essaierai de relire le texte. Alors, j'essaierai de relire le texte, ça veut dire, je relirai le texte. Et il a relu le texte. Et une fois qu'on a été convaincu qu'il relirait le texte, nous, on était complètement tranquilles. C'est-à-dire que si on met quelque chose qu'il trouve trop intime, il l'enlèvera lui-même. L'autre surprise qu'on a eue quand il a relu le texte, c'est qu'il l'a relu vraiment ligne par ligne. C'est pas juste il l'a parcouru, il a vraiment pris son temps. Au lieu de nous envoyer les corrections par mail, il nous a demandé de venir le retrouver à Vienne. Et on a passé 18 nouvelles heures autour de la table pour reprendre ligne par ligne et discuter. Il n'a rien coupé, mais il y avait des changements de formulation, où je n'ai pas dit ça comme ça, et de temps en temps, il se rangeait à nos arguments, et de temps en temps, c'est nous qui nous rangions aux siens. Mais du coup, c'était merveilleux, et on peut vraiment dire que ce livre s'est fait à six mains. Il y a écrit « Entretien avec Michel Ciotat et Philippe Rouillet », mais vraiment, Michael Haneke est là aussi. D'ailleurs, on a eu la chance de faire deux séances de signature avec lui. C'est-à-dire que ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'il considère que c'est aussi son livre.
C'est vraiment Haneke par Haneke.
Voilà, le titre n'est pas un mensonge.
Alors, je voulais vous demander tout simplement si vous, à votre niveau, vous étiez fier de rentrer dans ce panthéon de critiques de cinéma, un petit peu à la manière de François Truffaut, de Michel Simon ou de Noël Simsolo, qui, ces critiques de cinéma qui ont sorti un livre de discussion avec un grand cinéaste.
Ah ben bien sûr, dire que je suis fier et quand vous me citez ces glorieux aînés, évidemment oui, je vous dirais que c'était cette envie-là d'aller sur leur glorieux. D'ailleurs, le livre de Truffaut avec Hitchcock a été vraiment de bout en bout un modèle pour nous. On y fait des petits clins d'œil dans la présentation, dans les têtes de chapitre, mais il y avait aussi cette idée parce que, vous savez, aujourd'hui, évidemment, quand on parle d'Hitchcock, on se dit, bon voilà, c'est facile hein, d'aller faire des entretiens avec Hitchcock, un maître du cinéma. À l'époque où Truffaut a fait ses entretiens, Hitchcock n'était pas aussi bien considéré qu'il l'est aujourd'hui. Il avait quand même à côté petit auteur de films policiers et qui n'existe pas par rapport aux vrais grands cinéastes comme Bavette, Fellini, Bergman, que sais-je. Haneke, notamment en France, a toujours ce statut-là très controversé, c'est-à-dire que, bien sûr que c'est un très grand cinéaste, les deux Palmes d'Or et d'autres prix glanés partout en attestent, mais dans la cinéphilie, il ne fait toujours pas l'unanimité. Et ce livre est aussi là pour parler de ça, c'est-à-dire qu'on lui permet de s'expliquer, et on n'hésite pas à faire l'avocat du diable, on n'est pas juste deux critiques confiés en admiration qui recueillent la parole. Ce livre, c'est comme le livre de Truffaut, c'est comme le livre de Michel Simon avec Kubrick. Les questions, c'est aussi de l'analyse. C'est pas simplement racontez-nous comment c'était, comment ça s'est passé, etc. C'est pourquoi vous avez fait ceci, comment vous avez fait cela, et ne croyez-vous pas que. Et à partir de là, et c'est aussi une immense chance quand vous êtes cinéphile, que vous vous retrouvez face à quelqu'un dont vous appréciez le travail et pouvez tout lui demander pour essayer de mieux comprendre. Et c'était, imaginez, ces 50 heures à parler avec, sans avoir peur de l'importuner, puisqu'on est là pour ça, on est là pour le travail. Et on a évidemment les films à côté, on avait tous les films en DVD, au besoin, clac, on leur montrait une séquence pour dire, alors, et là, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Aujourd'hui, avec les outils modernes, c'était beaucoup plus facile que quand Truffaut fait son livre dans les années 60, il peut revoir les films en pellicule, mais c'est quand même une aventure.
Bien sûr. Alors, simplement pour conclure sur ce film Amour qui sort le 23 octobre sur nos écrans et qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2012, est-ce que vous pouvez nous dire, Philippe Rouillet, nous donner quelques bonnes raisons de se lever, sortir de chez nous et aller voir le film au cinéma ?
Bah, c'est un film d'une grande émotion. Pour moi, c'est un film Amour qui a un point de bascule dans le cinéma d'Haneke parce que c'est vraiment le film, j'allais dire, où il s'est le plus lâché. On est toujours dans un système de huis clos, enfin, j'allais dire de dispositif. Là, en l'occurrence, c'est un huis clos. Donc, le film renvoie un peu à son premier film de cinéma, Le Septième Continent. Une famille qui s'isole et qui, petit à petit, à cause de la mort, va se refermer autour d'elle-même. Et dans le film, c'est quelque chose d'extrêmement touchant, auquel on ne pense pas toujours. C'est que cet homme qui s'occupe de sa femme malade, bah, ça ne laisse plus de place à l'extérieur. C'est-à-dire que même leur fille devient une intruse. Parce qu'elle arrive, elle n'est pas du tout méchante fille, hein, elle arrive avec sa bonne volonté, et sa bonne volonté ne suffit pas par rapport à la maladie. Alors, il y a une interprétation formidable de Emmanuel Riva, de Jean-Louis Trintignant, ils font un couple assourdissant. C'est évident, et Moretti, qui dirigeait le jury du Festival de Cannes au mois de mai dernier, l'a bien laissé entendre. Si le règlement du festival l'avait permis, il aurait donné les deux prix d'interprétation aux comédiens. Mais ce n'était pas possible, parce qu'une fois qu'on donne la Palme d'Or, on ne peut pas donner les prix d'interprétation. Alors, eux deux sont formidables. Isabelle Huppert n'a que 4 scènes, mais elle a une présence vraiment magique. Et puis, il y a aussi Alexandre Tarot, ce musicien que vous connaissez tous, ce pianiste concertiste qui joue son propre rôle, mais en même temps doit jouer. C'est un peu comme les chanteurs d'opéra avec Haneke. Vous êtes musicien, mais il faut quand même être acteur. Et d'ailleurs, il a fait un casting de pianistes célèbres pour savoir lequel jouerait le mieux. Le sujet peut faire peur. Vous allez me dire, oh là là, la maladie, on a tous connu ça. C'est-à-dire, c'est nos parents, c'est nos conjoints. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Est-ce qu'on va aller au cinéma voir ça ? Ce qui est très important, c'est que évidemment, Haneke propose une vision très documentée de la maladie. Mais le but du film, c'est pas de documenter la maladie. Le but du film, c'est de raconter, de montrer comment on fait pour gérer la souffrance de l'être aimé. Et à partir de là, si vous voulez, évidemment, on va voir une scène de douche, on va voir, il lui met des couches, mais c'est jamais gênant, parce que ce qui montre, c'est pas le naturalisme, c'est pas un film pour les dossiers de l'écran. Ce qui montre, c'est qu'est-ce que ça fait psychologiquement à cette femme que son mari lui mette des couches, qu'est-ce que ça fait au mari de devoir mettre des couches à sa femme.
Et c'est la dévotion.
Voilà, c'est la dévotion, et c'est peut-être le seul film de l'histoire du cinéma qui peut s'appeler « Amour sans ironie ». C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort.
Philippe Rouillet, vous sortez donc, je le rappelle une dernière fois, « Haneke par Haneke », entretien avec Michel Ciotta et Philippe Rouillet aux éditions Stock. Le livre est sorti le 17 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Darius Kondji.
Merci à vous.
Et puis à une prochaine.
Entendu.